Je vais expliquer de quoi il s'agit. Vous savez que le Sidour, l'ordonnance d'être filote, est un plan très précis et très complexe. Certains d'entre vous ont peut-être eu entre les mains le livre du rabbin Munk, Le monde des prières. Vous avez en tout cas certainement dans un des chapitres le plan de chacune des prières du matin, de l'après-midi, du soir. C'est à un certain moment qu'on arrive à la tefila. Il y a toute une ordonnance de différents rites, l'un après l'autre, qui nous mène à la tefila. Un de ces rites, c'est la récitation des lois concernant, d'une part, les sacrifices au temple. Il y a plusieurs objets à l'institution de ce rite d'étude, pratiquement, de récitation, mais en particulier les lois concernant l'encens, les ktoret. Or, nous avons un grand principe dans l'enseignement du Talmud, c'est qu'il n'y a jamais eu aucune controverse sur les lois concernant les ktoret. Alors, c'est donc la halakha psouka par excellence. Alors, on passe par le rappel de cette halakha psouka, ce qui permet le kovet rosh nécessaire à la prière d'après cette braïta. Et j'avais cité une fois la manière dont la Kabbalah explique cela. Et en effet, c'est les seules mitzvot introduites par la Torah Shebichtav elle-même par l'expression suivante, Vaydaver Hashem el Moshe sans les mots. Il n'y a pas les mots. Vaydaver Hashem, c'est Elohim ou Hashem. Vayomer. Vayomer. Vayomer Hashem el Moshe, kach lecha samim. Il n'y a pas le mot les morts. Je vais expliquer ça au tableau. Voilà. Le verset qui introduit les mitzvot, c'est « Et Dieu parla à Moïse pour dire, deux points, fais ceci, fais cela. » Or, ici, c'est le seul cas où il n'y a pas seulement les morts pour dire. Et le verset porte Vayaber Hashem el Moshe, kach lecha samim. Or, ce mot les morts, c'est l'indication de l'épaisseur de la Torah Shebaalpé. L'un dira comme ça, l'autre dira comme ça, en fin de compte. Hein? Dieu parle à Moïse et lui transmet un projet. Ce projet va être transmis dans la tradition et chaque héritier de ce projet dira comment Dieu a parlé à Moïse. C'est la Torah Shebaalpé. Hein? Or, ici, il n'y a pas de Torah Shebaalpé.
Vayomer
Hashem.
Vayomer
Hashem. Vayomer Hashem. El Moshe, kach lecha samim, directement. Il n'y a pas l'épaisseur de les mots pour dire. Tout ceci se rattache à l'enseignement qu'il y a dans le Midrash Sanhedrin Truma à propos d'un verset d'Ézéchiel. Vayi, devar Hashem elai, les mots. Et le Midrash Sanhedrin Truma dit ceci. Je vous mets quand même ce verset au tableau. Vaï, Devar Hashem Elai, les mots. Or, le Midrash en Truma dit ceci. Vaï, Devar Hashem Elai, Bessinai, les mots, Beshafto. Beshafta, littéralement. Ça veut dire ceci. Et c'est le prophète Ézéchiel qui parle très longtemps après le Sinaï. Et la parole de Dieu me fut adressée où? Quand? Au Sinaï. Les mots, pour dire au moment où j'ai à dire cela. Vous voyez quelques mots de l'explication. Et alors, donc, dans le Lémor, il y a Ézéchiel dira cela, Isaïe dira cela, Jérémie dira cela, sauf la marloquette dans la... dans le temps. Oui. Béchato, en son temps, pour le dire en son temps. Et vous voyez pourquoi, de nouveau, la marloquette n'est pas tellement importante entre les opinions, elle est importante entre les options qui font qu'on a préféré. Telle opinion. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire opinion en français, Soso? Ça veut dire opiner, préférer penser comme ça. Mais qu'est-ce qui fait que je préfère penser comme ça plutôt que comme ça à propos de la même vérité ambiguë ou ambivalente? C'est que j'ai décidé dans l'option d'agir comme ça, alors je pense comme ça.
Alors, là, il y a un degré moins par rapport à la tradition.
C'est là que l'on dit que l'opinion est une valeur supplémentaire parce que dans l'opinion, je m'engage. Opiner, ça veut dire presque. Là, le vocabulaire n'est pas adapté. Vous pensez peut-être à Sadia Gaon et Mounod Vedeot, alors que par exemple chez Descartes, opinion et créance, c'est pas exact. C'est un problème d'ailleurs très riche, mais si on prend le sens simple, hein, moi je préfère penser comme ça. Mais bon, mais le vrai problème, c'est parce que je pense ça. Et l'ouvre-nous, dit Brélochim Chaïm. Ce que tu penses et ce que l'autre pense, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait que tu préfères penser comme ça, c'est ton niveau, il est digne, pas au niveau, il t'en sera. Voilà, c'est clair. Alors effectivement, on passe par ces halakhapsuka qui rectorait, et après on arrive donc pacifié, parce qu'on a référence à ce que voilà, halakhapsuka c'est possible, alors on peut prier. Ouais, voilà ce que nous sommes en train de découvrir finalement. Il faut que nous donnons l'expérience dans le cheminement spirituel qu'une halakhapsuka, Torah sur terre, c'est possible avec conciliation, alors on peut commencer à prier. C'est clair? Et là nous allons aborder des illustrations de cela. Bon, le principe maintenant est éclairci, je pense, pour tout le monde. Alors nous allons aborder tout de suite la question de la Braïta, de la Gemara sur la Braïta. C'est-à-dire, voilà, la Braïta s'arrête là, dans la banane. Elle en dit mit palel, l'omitor din, velomitor dvar halacha, et l'omitor halacha psuka, point. Ça, c'est la Braïta. Et alors, avec beaucoup d'humour, la Gemara va poser une question. Et à quoi ça ressemble une halakha psuka? Elle a de l'humour, c'est hein? Elle est juive, cette gamara. De quoi tu parles? Halakha psuka, ça existe. Ouais, le problème. Alors là, nous allons avoir tout un tableau de trois exemples et qui va nous permettre de mettre en évidence les catégories de la tefila elle-même. Nous allons voir très rapidement de quoi il s'agit. Alors, premier exemple. Amar Avayé. Alors, Avayé enseigne. Est-ce que vous préférez que je vous mette en français ou en hébreu? Oui, en français.
En français.
Il suffit qu'il y en ait un qui demande. Bon, Avayé. Amar Avayé. Avayé cite un exemple de halakha psuka qui est donné par Rabbi Zera. Alors vous suivez avec moi. Amar Avayé. Qui ha de Rabbi Zera. Qui me demande heche damé. Qui ha de Rabbi Zera. Comme par exemple cet enseignement de Rabbi Zera. Et Amar Rabbi Zera. Donc Avayé cite Rabbi Zera. Ici je ne voulais pas entrer dans un problème de méthode. Ça nous dit. Un peu difficile pour ce stade, c'est pourquoi on a besoin que Avayé cite Rabbi Zera, cite-moi Rabbi Zera tout court, tout de suite. C'est donc la raison de Rabbi Zera n'est pas exactement la même que celle de Avayé. Avayé dit que c'est Rabbi Zera qui a enseigné cela et qui a résolu notre problème. C'est pas seulement ici la règle qu'il faut citer de qui on a appris. Parce que là, nous aurons une toute autre formule. Avayé a dit au nom de Rabbi Zera. Mais ici, c'est pas la formule. C'est pas Amar Avayé Beshem Rabbi Zera, c'est Amar Avayé qui a des Rabbi Zera. Et Rabbi Zera avait une raison, mais Avayé en avait une autre. Bon, ça c'est pas à ce niveau-là qu'on va voir cette différence, peut-être en passant, mais simplement je vous signale ce problème de méthode. Laquelle? Alors je traduis. Le nom d'Israël, Ichmiru al-Atman, les filles d'Israël, Ichmiru al-Atman, soumettent Khumra. Khumra. Ici, c'est un exemple de Khumra. Notez bien cela. Mazé Khumra, Yichmiru al-Atman, ça veut dire choisir l'accord sur le niveau de la loi le plus aggravé. Une Khumra. Littéralement, ça veut dire lourd, hamour, grave, lourd en hébreu. Ça veut dire que voilà, il y a accord sur une Khumra. Sur le fait qu'il y avait controverse et en fin de compte, on a décidé un accord commun de choisir la manière dont la loi sera la plus. Sévère. Voilà. Quand vous verrez, si vous familiarisez un peu avec toutes ces catégories, c'est pas tellement évident que la Khumra soit plus dure que la Kula, qui est l'opposé. Parfois la Kula est très dure et la Khumra est très facile. En fait, la correspondance n'est pas forcément évidente à ce niveau-là. Donc, de notre Israël, les filles d'Israël, Ichmiru al-Atman, ont pris sur elles une aggravation de la loi, Shafilu ro'otipaddam kehardal. Je ne traduirai pas littéralement, mais je vous dirai quel est le sujet ici. C'est, même si il y a un doute, si vraiment le temps de l'impureté mensuelle est arrivé, s'il y a un tout petit doute, un doute comme un grain de poivre, eh bien, on déclare la période d'impureté. Yoshvot Alea, Shiva Niki. Bon, je ne traduis pas le détail, mais vous comprenez. Et alors, il y a ici, comment dire, un énorme étonnement. cette halakha psouka nous vient des filles d'Israël, pas des rabbins d'Israël. Les filles d'Israël ont décidé comme ça et les rabbins étaient d'accord. Pour que les rabbins soient d'accord, c'est sur l'opinion des filles. Et c'est encore très profond comme Khumra. Voilà, il y a encore là-dessus. Un exemple. Je réponds à la question de la Gemara. Ve'echedame halakha psouka. Et il faudrait dire mamash, à la manière des chassidis. Ve'echedame halakha psouka mamash. Et à quoi ça ressemble une vraie halakha psouka? Voilà, on a un exemple. Rabbi Zera a enseigné, à propos d'un problème de l'impureté conjugale, que les filles d'Israël ont décidé sur elle. Même s'il y a un tout petit doute de quelconque, d'une trace de sang, on décide que la période d'impureté a commencé pour 7 jours. Deuxièmement, Rabba Amar. Rabba, ça veut dire Rava, puisque c'est pas Rabba, mais Rava. C'était deux. Rava a dit, Kira de Rav Oshaya, en citant Rav Oshaya. De Amar Rav Oshaya, Mahari Madam Altevuato, l'homme ruse, ça veut dire peut ruser avec sa récolte, ou Mahnissa Bamot Shela, et l'engrange, la faire entrer dans les granges, avec le son, avant d'avoir battu le blé ou l'orge, c'est la balle. Le son et l'engrange, avec le son, afin qu'elle puisse servir de nourriture à l'animal, ou plutôt amène à maaser, et donc serait quitte de la dîme. C'est-à-dire, si c'est une nourriture pour l'homme, que l'homme peut déjà manger de cette nourriture, alors il faut donner la dîme. Mais si elle sert de nourriture pour l'animal, on peut en tenir compte de la dîme. Quitte de la dîme. C'est le deuxième exemple. On va revenir sur l'étude de chacun de ces exemples. Et là, nous avons bien évidemment une coula, c'est-à-dire un allègement de la loi. Comment écrire ça, bon, coula? C'est-à-dire, je vous mets déjà, si vous voulez, en ordre, des catégories, des critères. Le premier exemple était une khumra. Et nous verrons tout à l'heure dans quel domaine de la vie cela porte. Le deuxième exemple est une coula. Il est bien évident que si on donne l'autorisation de ruser avec la loi, c'est qu'on veut alléger la loi. Nous ne sommes pas à ce niveau-là, donc on va donner une tolérance. Ça s'appelle une coula. Veiva et Tema, troisième exemple, et si tu veux, je dirais, si Had et Rabhuna, et là c'est la Gemara qui cite, Rabhuna. Elle ne cite pas un tel qui cite un tel, mais la Gemara directement cite Rabhuna, et qui dit ceci, Amakis Gambe Behemat Kodashi, celui qui fait une saignée, dans une benne. Ah, vous l'avez dit, non.
Donc, on retrouve dans Rabbi Zera, c'est par la Gemara.
C'est exact. Mais ce n'est pas Rabbi Zera, c'est Rabbi Zaira. Oui, c'est exact. C'est Rabbi Zaira. C'est pas le même. Donc, Amar Rabuna, Amar. Oui, non, voilà où était la différence de formule. C'est pas que Abaye cite l'opinion de Rabbi Zera. Ici, c'est Rabuna qui enseigne au nom de Rabbi Zera. Regardez la formule qui est différente. Amar Rabuna, Amar Rabbi Zera. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que Rabuna enseigne dans l'opinion de Rabbi Zera. Alors que pour Abaye et Rabba, ils avaient, comment je pourrais dire en français, ils avaient...
Deux raisons différentes, vous êtes d'accord pour la même
chose. Oui, c'est ça, on ne peut pas dire citer dans le même sens que pour la
première. Utiliser.
Utiliser, très bien. Il dit, Amaki dam de behemat kodashim, celui qui fait une saignée dans un animal destiné au temple, behemat kodashim, c'est-à-dire, vous savez, par exemple, le premier-né du troupeau, le premier-né dans le troupeau est consacré au temple. Et donc, on n'a pas encore eu le temps, suivant les dispositions de la loi, d'apporter cette bête au sacrifice du temple. Et voilà qu'elle est encore dans la ferme et qu'il faut faire une saignée, sinon elle meurt ou elle tombe malade. Alors celui qui fait une saignée pour soigner un animal destiné au Kodashim, à Sur Bahana, il est interdit de se servir de ce sang pour quoi que ce soit. Bien entendu, pas pour le manger, puisqu'on ne mange pas de sang, mais on pouvait introduire le sang dans une graisse pour en faire du cirage, une teinture ou quoi que ce soit. Peu importe quel hana, ou moralingo. Et on ne peut que le verser sur l'autel. Et là, on ne voit pas, a priori, Or, où est l'objet d'une controverse ou d'une halakha? C'est comme ça que la loi et c'est comme ça qu'il faut faire. En réalité, pour l'étude à la halakha elle-même, on pourrait douter que, bien sûr, il est interdit de s'en servir, mais que peut-être il est aussi interdit de verser ce sang sur l'autel. Par conséquent, ici, la halakha nous est donnée, la halakha psouka, comme il faut faire. C'est ni une chumra, ni une kula. Est-ce que c'est clair jusque-là? Bon. Alors ici, je ne sais pas comment vous mettre. Quel terme vous proposez? Stam. Il faudrait dire mistama, peut-être. Mais l'expression c'est dîne et mettre la mito. Mais comme ici il ne s'agit pas d'une querelle de dîne et mamonot, mais que c'est un problème de dîne et nefachot, sauf, on n'a pas l'habitude de dire dîne et mettre la mito. Il faudrait dire dîne. La règle, comme elle est. Alors tout de suite, pour s'expliquer pourquoi il a fallu trois exemples. Alors, il faut comprendre sur quel domaine cela porte. Il est bien clair que la première halakha nous a été donnée dans un domaine très précis, qui est Mitzvot ben Adam le Hatsu. Là, je peux vous mettre en hébreu, ok? Mitzvot ben Adam le Hatsu. Ici, c'est Mitzvot ben Adam la Havero. Et ici, c'est Mitzvot ben Adam la Mako. Alors, j'explique. Vous savez que l'ensemble des mitzvot se distribue dans trois secteurs. La relation de l'homme avec l'identité humaine en lui, mitzvot ben adam et asmo, l'homme et son essence. Et tout un secteur de mitzvot se groupe dans cette coordonnée, dans cet axe, mitzvot ben adam et asmo, en particulier les mitzvot de la relation entre l'homme et la femme. Ça fait partie de mitzvot ben adam et asmo. Zot aparam, etzem me'asama yubasam yubesari. C'est atmo. Et donc nous voyons, dans le domaine de la vie privée, l'accord de la loi se fait sur la khumra. Alors, on relit les deux critères. Voilà sur quoi se fait l'accord. C'est que quand il faut accord, voilà la règle. Si c'est une mitzvah ben adam et atmo, l'accord se fera sur la khumra. Et tout à l'heure, on se demandera pourquoi. C'est clair? Là, nous avons deux critères, mais surtout le lien entre les deux. Voilà pourquoi on était devant une espèce de chaos d'opinion. Mais nous avons des règles. C'est-à-dire, s'il y a controverse, dans la mesure où c'est un problème qui porte sur ben adam et asmo, l'accord se fera dans la khumra. Et après, on verra pourquoi. Je pense que c'est clair. Deuxièmement, l'exemple de la dîme, c'est les problèmes de la France, de l'homme et de la société. C'est frappant de voir qu'en général, c'est le cas ici, dans un problème de rapport entre l'homme et la société, toujours un exemple de la vie économique. Il s'agit bien d'un exemple dans la vie économique, le problème de la redevance de la dîme au moment de la récolte, soit la dîme pour le lévite, soit la dîme pour le pauvre, et voilà que dans certaines conditions, on va autoriser à faire semblant de tourner la loi, puisque la dîme doit être donnée sur la récolte de la nourriture pour l'homme, et voilà qu'on va faire comme si cette nourriture était une nourriture pour l'animal, de telle sorte de pouvoir alléger la redevance de la dîme dans la mesure où c'est nécessaire. Est-ce que c'est clair? Et alors là, voilà donc une grande règle qui apparaît, la deuxième. Si la controverse est par rapport au mitzvot ben adam la havero, alors la règle, c'est de se mettre d'accord dans l'ordre de la kula, dans l'ordre de l'allègement. Et puis, troisièmement, dans les mitzvot ben adam la makom, entre l'homme et Dieu, on ne change rien, ni en khumra, ni en kula. C'est parce que là, il y a une science exacte, qui est de l'ordre de l'anthropologie, si j'ose dire. Cette créature doit se relier à son créateur. C'est-à-dire, c'est une science qui dépasse la morale, dans le sens de Adam la Havero, ou la religion, dans le sens de Adam et Asmo, et qui serait plus clairement définie comme étant le culte, mais dans un sens hébraïque, c'est-à-dire le rapport entre moi et mon créateur. Là, il ne faut rien changer, il ne faut rien toucher. Est-ce que c'est bien clair? J'ai parlé un peu trop rapidement, mais vous voyez, il y a trois domaines complètement différents. Et c'est ceci. On raconte dans la Gemara une histoire d'un grand prêtre, sadducéen, qui a voulu enjoliver le culte. Je vous donne un exemple très simple. Il a voulu mettre des gants blancs pour faire le sacrifice. C'est joli. Imaginez un administrateur de la rue de la Victoire qui invente une chose pareille. Et alors, passible de mort. Et pour ça, il a voulu améliorer. Hayam Mita, il a voulu mettre des gants blancs pour faire le sacrifice. C'est joli. Rien à voir. Il ne faut pas changer l'ordonnance du Ehok. Et là, on ne change pas. Bon. Quelqu'un voulait poser une question, je pense.
Oui. À propos du deuxième cas, la question est là. Non, celui qui reçoit, aura Hora de recevoir. Celui qui donne, car Hora de donner, donc juridiquement, parlera de la couleur de la Hora, de celui qui recevait.
C'est-à-dire, on va alléger le problème des rapports entre chacun et la société. J'arrive au troisième niveau d'analyse. Vous voyez quels sont les différents plans qui apparaissent. Premièrement, Khumra, Kula, Din. Deuxièmement, Mizot Benadam, Atmo, Benadam, la Havero, Benadam, la Makou. Surtout le lien entre les deux. C'est-à-dire que la Halakha Psuka, dans ce domaine, elle est Khumra, dans ce domaine, elle est Kula, dans ce domaine, elle est Derecha Emsaï. Alors nous nous demanderons pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Alors, l'explication que je proposerai est la suivante. C'est que la Torah vient réintégrer la valeur complémentaire de la tendance naturelle. Étant donné que la tendance naturelle, au niveau de Ben Adam et Asmo, c'est la conduite de Midata Chesed, donc la Torah se fait Midata Din pour ce niveau-là. Je m'explique. C'est clair? C'est-à-dire, dans le domaine des rapports entre moi et moi, la vertu de vie qui sous-tend cela, c'est la Midata Chesed. Et par conséquent, l'objectif de la loi, c'est de réintégrer l'unité des valeurs. Donc l'exigence de vertu dans ce domaine-là est l'exigence de Khumra, de sévérité. Voilà, à partir d'un développement très large de Moussard. Mais la perspective de la halakha, c'est de chercher l'unité des midot. Étant donné que naturellement, la mida de la conduite dans la vie privée, c'est, je vais dire ça un terme pas tellement adapté, la tendance au laxisme, voilà. Comment dire, je parle du cas normal. Il peut y avoir des cas pathologiques où, au contraire, on s'inflige le contraire dans la tendance naturelle. Mais la tendance naturelle, dans l'ordre des rapports, disons des rapports sexuels, puisque ça commence là, le problème de Ben Adam et Asmo, c'est au contraire, la Midata Chesed, l'affectivité sans frein. Alors la Torah légifère dans le sens de la Midata Gvura. De là, ça y est, c'est clair en hébreu, tout le monde a dit. Alors, la suite suit. La mida naturelle de la vie en société, c'est cette terrible chose qu'est la mida à Gvura. Okay? C'est-à-dire, dans les rapports entre l'homme et autrui, qu'est-ce que donne la nature? L'agressivité, la méchanceté, la dureté. Enlever méchanceté, c'est déjà trop méchant, mais la dureté. Alors, puisque la loi dans les rapports à la société, c'est la loi dure, alors la Torah va réintégrer l'autre mida. Donc, l'accord se fera sur la Kula. Ça y est, c'est clair? Et puis, Ben Adam et Haver, on ne bouge pas. La vérité, c'est Ben Adam la Makom. On ne change rien. La vérité, c'est la vérité. C'est-à-dire, dans l'ordre de cette Kedusha-là, de Ben Adam la Makom, rien ne sera changé. Parce qu'il ne peut pas y avoir autre chose que coïncidence absolue entre la réalité et la vérité. Alors là, on ne change pas. Hachem, Elokechem, Emet. Voilà, on ne bouge pas. Ni Kula, ni Khumra.
Je voudrais éclairer ces trois principes, c'est voilà, dans tous les...
C'est-à-dire, ici nous avons des directives. C'est-à-dire, cette Braïta nous donne des directives. Tu avais un problème avec Alakha Psuka, tu ne croyais pas que c'était possible, voilà, on te donne un secret. Nous avons Alakha Psuka. Nous avons Alakha Psuka dans la Khumra. Nous avons Alakha Psuka dans la Kula. Nous avons Alakha Psuka dans Dinemet Lamitu. Et nous avons Alakha Psuka dans chacun de ces domaines. Nous connaissons la règle, où, comment et pourquoi. Alors ça, c'est le plan immédiat que je viens de citer, parce que le principe de la Torah, c'est de donner la mida complémentaire de la tendance naturelle. Comme bien évidemment le domaine de Ben Adam Le'atzmo, c'est Chesed, alors la Torah exigera Gour. Et Zehu Givor, Akovesh et Titzro. Mais en tout cas, j'analyserai surtout le deuxième point, la relation avec le Ach et la relation de Gouvoura. Et par conséquent, pour qu'il y ait solution du problème de la relation à autrui, la Torah demande vers Hafta et Achakamur. Ça veut dire que dans l'ordre de la halakha par rapport à la société, Il faut. Et je ne sais pas si les bathélinimes aujourd'hui fonctionnent comme ça. Il est possible qu'ils fonctionnent à l'envers. Et que, et qu'ils permettent coup là dans la vie de Madame Garçon, qui au contraire ils aggravent là où il faut alléger, etc. Mais c'est pas ça que je parle. Je parle de l'arrêt qui nous est donné ici. Quel?
Le
fait
de retenir.
Non. Attends. Voilà, je vais d'abord signer le verset. C'est dans les brachot que Yitzhak donne d'abord à Esav, et ensuite il confirme d'abord Jacob. Et ensuite, il confirme à Esav, la bracha qu'il devait donner à Esav. La relation sociale est une relation de Gevura. C'est dans la tendance naturelle. Dans la tendance naturelle.
Okay.
C'est pas de l'individu, vous avez de la société. Attends, explique bien ta question.
Non, dans la relation vis-à-vis de la société, il ne s'impose pas. Non, c'est rigueur.
Ça, c'est la Gevura que la Torah me réclame. Et quel est le véritable dibour? C'est le Kovesh et Titzrou. C'est-à-dire, les Tzamtzem et Atzmi, qui déchet la tête et Chiot la Zoulat.
Oui, mais justement, et qu'est-ce que vous dites dans Torah? De lui donner au minimum. Parce que justement, le Mahaser que je donne,
voilà.
Le réduis.
Voilà ce que je veux dire. Et donc, tu as raison, mais je veux préciser. Voilà ce que je veux dire. L'individu, par rapport à la loi, lorsque la loi traite de la société, la loi qui traite de la société écrase l'individu. Alors la Torah, le Din Torah, allège cela. C'est-à-dire, si je devais prendre une loi naturelle, tu me dois la dîme, ne me raconte pas d'histoire. Cette nourriture, le collecteur d'impôts, cette nourriture, c'est pas pour la bête, c'est pour l'homme. La loi naturelle, le Din Torah, ajouterait ça. C'est plus clair maintenant. Donc, effectivement, c'est ce que nous vivons dans l'expérience. La loi de la Torah, pour la vie sociale, c'est le ve'ahavta le'echa kamocha, c'est la loi d'amour. Et la loi se fait dure dans la fabrication de l'homme par lui-même. Ça, c'est les mitzvot de kashrut, c'est les mitzvot de nida. La loi se fait dure. Une minute. Mais dès qu'il y a en jeu une relation sociale, c'est Torah Hesed. Ça, c'est le deuxième. Et alors, dans la Kedusha, par rapport à Dieu, ça, c'est une chorma pour elle-même, il n'y a que ceux qui savent. Qui savent, et on ne change pas le rite. Celui qui change le rite, démolit des mondes entiers, mais il ne sait pas de quel monde il parle. On parle. Donc on ne change pas un détail. D'accord? Pourquoi? Parce que là, il y a une structure de vérité qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir avec le sentiment religieux ou l'organisation sociale. Vous voyez à peu près le problème. Non, on ne touche pas. Quelqu'un avait une autre question posée, il me semble. Non? Alors voilà pourquoi je voulais citer ce verset d'ailleurs qui est relié. La mida de Gevura, c'est Yitzhak, okay? C'est cette mida qui veut transmettre à ses enfants. Et il dit, hein, gvir samtiv, les echav. Je l'ai placé comme gibour par rapport à ses frères. C'est lui qui a cette mida-là. C'est Yitzhak, comme on verra la Gevura. Alors, si la halakha demande qu'on aille du côté de la kula pour réintégrer l'unité des valeurs, comme je signale habituellement. Top. Et alors là, je vous demanderai de prendre, pour compléter tous ces plans, un plan supplémentaire, qui est que ce n'est pas par hasard qu'on nous a donné trois exemples. Parce qu'il y a trois tfilotes. Il y a Shachrit, Mincha, Arvit. Alors là, vous prendrez une autre référence, qui est dans la page 26, Aleph. Non, c'est 26B. K-Vav-B. 26B. Dans Bracho, toujours. Et c'est un problème que nous reprendrons peut-être demain. Et nous avons cette référence que j'ai citée tout à l'heure. Des philotes, bravo, tikkunum. Les philotes ont été instituées par les patriarches. Tikkunum. En prononciation moderne, et le dagesh de Tikken. Les tfilotes, ce sont les Havot qui les ont institués. Comment? Abraham a institué la tfila de Shachrit, Yitzhak a institué la tfila de Mincha, et Yaakov a institué la tfila de Arvit. Or, je vais prendre cette référence avec vous pour citer le verset sur lequel on se base, le fait qu'on prie trois fois par jour, Shachit Mincha Arbi est institué par les Avot d'après l'ordre d'un verset des psaumes. Et ensuite, deuxième formule, peut-être on étudiera cela demain plus en détail, Tfilot Keneged Temidim Tikkunum, et cette tfilot instituée par les trois patriarches ont été agencées, formulées par rapport au rite des trois sacrifices de la journée. Mais c'est le verset qui fonde le premier enseignement qui est important et que je vais vous donner tout de suite. Donc, ceux qui ont des Gemarot, prenez à la page 26. Vous l'avez là. Bien, il m'échappe, c'est
le 13e ligne.
Vous l'avez ?
Le verset lui-même ou...
Oui, le verset.
C'est... Voyage que va femme ?
Non, ça c'est pour chacun des patriarches. Le verset général, c'est... Non. Arev va boker ve tsaoraï. Je vais retrouver la référence. Et la deuxième lettre de Yitzhak, c'est Tzadé, c'est Tzahoraïm. Et ça vient du verset. Bon, simplement en passant, mais je vous trouverai le. Par quel vous avez. Plus fort, si vous voulez. C'est pas concrétant. Maman, c'était la 19e bénédiction. Et qui a été réinstitué par la suite, mais qui existait au temps du Bayit Rishon et qui a été réinstitué au Bayit Sheni. Bon, c'est un problème qui n'est pas relié à la question, c'est-à-dire dans tous les Shmoné, dans chacun des Shmoné Esrei, quel que soit Shachit, Mincha ou Arbi, il y a la Malchimim et la Meim. Mais quelle est votre question? Pourquoi il y a cette bracha là?
Plus fort. Enfin, elle était... Est-ce
qu'avant,
elle était aussi...
C'est-à-dire, elle a été instituée chaque fois qu'il y avait un risque d'hérésie. Et donc, elle a été réinstituée lorsque les sectes ont commencé à se multiplier. Au temps du Bayit Sheni, on a demandé qui se rappelle comment nos ancêtres, lorsqu'il y avait une question de ce genre, formulaient la 19e bracha concernant le minime.
Et elle
n'est pas plus
tard.
Bah où du lequel? Le premier ou le deuxième? Elle a été instituée dans le premier, oubliée parce que le problème avait été résolu, elle a été réinstituée dans le deuxième. Bien, alors voilà pourquoi j'ai cité cela. Nous savons d'après cette page, en tout cas de la Gemara de 26b, que Abraham a institué la Tfila de Shachrit. Par conséquent, lorsque je fais la Tfila de Shachrit, au matin, je prie bien entendu chaque fois en tant que fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est la première formule. Elokeinu, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Et les trois fois, je me réfère, pour mon sroud de la prière, aux patriarches qui ont institué ce droit. Dans la formule que je vais vous donner d'abord de façon très allusive, la formule suivante. Si je devais me borner à l'être de nature, je sais que toi, le Créateur, tu as disposé tout ce qu'il faut pour ma vie. Mais je ne peux pas me borner à l'être de nature. Je suis descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu m'as donné une tâche particulière pour laquelle j'ai besoin de brachot. En tant que je suis fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donne-moi les brachot qui me sont nécessaires pour être Israël. Voilà le droit à la prière d'Israël, très très schématique. Ça fera l'objet d'une autre analyse plus en détail. Okay? Et alors, ceci dit, chaque moment de la journée, la dominante de ce problème est différente. La dominante le matin, c'est plus en tant que fils d'Abraham, parce que c'est lui qui a institué la prière du matin. La dominante à Mincha, c'est plus en tant que fils d'Israël. C'est clair? La dominante à Arbit, c'est plus en tant que fils de Jacob. Alors nous avons de nouveau la complémentarité des valeurs. Étant donné que Shachrit, je me situe en dominante, plus devant le Dieu d'Abraham, en fait, devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais plus devant le Dieu d'Abraham, Chesed, Par conséquent, Mahalakha Psuka, le matin, sera plus en dominant Khumra. Vous voyez pourquoi? Et pour la même raison que tout à l'heure. C'est-à-dire le matin, je penserai à se réciter à bailler. Plus, et le reste vient avec. L'après-midi, c'est plus, puisque l'après-midi, c'est Yitzhak, Minata Agmura ou Minata Din, alors là, je sortirai d'une Halakha Psuka de Chesed, c'est-à-dire Kula. Et le soir, arbitre, c'est Yaakov. Bon, j'ai un peu mélangé. Arbitre, Kemidata Emet. Alors, la Halakha Psuka sera une Halakha Psuka de Emet. Vous voyez quelle est la dernière correspondance. Je vais un peu réintégrer ça, on verra plus en détail donc à partir de demain. C'est ceci, c'est-à-dire l'atmosphère de la Kavana de la Tfila, l'atmosphère naturelle, c'est Chesed. Alors je dois faire la preuve devant la Torah, puisque je suis dans Elokei Abraham, surtout, je dois faire la preuve de la Kula.
De la Kula.
Vechenala. Et bien, voilà donc la première braïta que je voulais étudier avec vous aujourd'hui. Il nous reste une phrase que je n'ai pas lue dans la Sougia et que nous allons lire maintenant. La dernière phrase. Le passage en dit. Alors lisez-la avec moi, si vous voulez. Ravanan, Avde, Kematnitin. Avanan Avde Kematnitin, nommé, faisait comme la Mishnah, qui disait En Andin Leit Palel, et la Mitor Kovedrosh. Il faut d'abord être dans une attitude sérieuse, propre, au plaideur devant le tribunal, comme nous avons vu tout à l'heure, pour avoir le droit de prier. Peut-être nous reviendrons demain sur cette soubia-là. Donc, Ravanan, en général, nos maîtres faisaient comme avait dit la Mishnah, d'abord le Kovedrosh, et ensuite la prière. Et c'est pourquoi, en particulier, on a institué la lecture des psaumes, des psouk et des imra. À Mincha, c'est beaucoup plus restreint, mais il y a aussi le psaume, en tout cas au moins de Asher Shevevetecha. Et puis, de telle sorte de donner le Kovet Rosh, duquel on commence à entreprendre la prière. Tandis qu'on nous ajoute Rav Ashi Abid Kevraïta. C'est-à-dire que Rav Ashi, en particulier, faisait comme cette braïta. C'est-à-dire, lisez une halakha psuka, se remémorer une halakha psuka avant de commencer à prier. Certains d'entre vous connaissent déjà certainement la réponse, mais je voulais signaler que c'est une des phrases de l'ensemble du Talmud les plus mystérieuses. Rabbanan Abde Kematnitin, Ravashi Avid Kabraïta. Pourquoi? Parce qu'il était, comment dire, singulier, comme on dit aujourd'hui, contestataire. Tous les maîtres faisaient comme la Mishnah, mais lui faisait comme la Braïta, c'est-à-dire à la Chapsuka d'abord. La réponse est très simple. Qui était Rav Ashi? Il était le greffier de la Gemara. C'est Rav Ashi et Ravina qui ont mis par écrit toute la Gemara. Ça veut dire que Rav Ashi en particulier avait en tête toutes les mahlokotes possibles et imaginables. Alors lui, le pauvre, il ne pouvait pas faire autrement. Et il devait passer par une Chapsuka pour rester juif et faire sa fille. Vous voyez donc, finalement, il n'y a pas tellement de mystère. Mais le fait que la Gemara nous les indiquait est encore une pointe d'humour très, très profonde. C'est-à-dire, Ravanan, Avdi Kematniti, mais Rav Ashi, lui, il fallait qu'il fasse. Donc on a découvert ici une réalité très importante. Halakha, Psuka, ça existe, je l'ai rencontré, si j'ose dire. Et trois exemples, regardez à quel point c'était important de situer dans chacun de ces secteurs. Et au fond, c'est peut-être un peu cela qui nous manque de notre temps, la certitude que Halakha Psuka, ça existe. Alors donc, la Tfila aussi est possible. Ça se relie, de façon générale, à tout ce problème de la dialectique entre le monde de la vérité et le monde de la réalité. Est-ce que la Torah de vérité est dans la réalité? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Halakha Psuka, tout simplement. Je vous propose d'ailleurs, je pense que vous avez sûrement des questions, il nous reste encore 10 minutes au moins, je vous propose d'ailleurs de vous lire très rapidement la manière dont le Rav Nachman de Breslav, dans un des passages de l'Écoutez Moharan, a parlé un peu par la bande de ce problème, mais en vous citant un minhag, d'abord deux choses. Si vous avez les sidurim avec kavanot, que ce soit chez les Ashkenazim, Mitnagdim ou Chassidim, ou dans le sidur du Hari, c'est-à-dire le sidur avec les textes qui nous donnent la préparation de kavana avant de commencer le Shmoneh Esri. Vous voyez qu'il y a une règle extrêmement importante que on doit, avant de commencer la tefila, on doit se remémorer la mitzvah de Ve'ahavta le'ra'acha kamocha. Vous avez dû remarquer cela. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas commencer la tefila si on est dans une atmosphère de mahlok. Je pense que c'est clair. Alors d'abord, on se rappelle la mitzvah de Kavana, de Ve'ahavta le'ra'acha kamocha, et après seulement, on a le droit de commencer la tefila. En particulier, nous verrons cela demain dans le Rav Nachman, c'est que lorsqu'on est dans un minyan, où on est en mahloket avec qui que ce soit, pourquoi que ce soit, on n'a pas le droit de faire la tefila dans le même minyan. Alors il y en a un des deux qui sort. Vous avez vu la multiplication des minyanim, d'où ça vient? C'est pour ça qu'il y a tellement de synagogues. Et parce qu'il y a une contradiction. Comment je peux faire la tefila alors que je suis en mahloket, pourquoi que ce soit, dans le minyan? Vous compris le problème? Il y avait donc une sorte d'assaise, d'évacuation de l'atmosphère de mahloket avant de pouvoir commencer la tefila. Et dans des synagogues, qui ont encore les anciens rites d'avant, les anciennes habitudes juives, il y a un rite très joli que je vais vous citer. Peut-être que vous pouvez encore trouver ça dans les synagogues qui ont gardé l'ancien rite espagnol. Et c'est que, avant de commencer la tefila, chacun se tourne vers tous les autres et fait un signe de la main. Vous avez remarqué cela? En se saluant, parfois même en s'inclinant, de telle sorte de reconstituer le minyan de façon franche, enfin sans marloquer, pour pouvoir commencer la tefila. Mais imaginez un minyan où il y a des gens qui ont des problèmes, quel qu'il soit, on ne peut pas prier. Alors nous verrons que ceci a été mis en forme. Alors, on a fait ça de façon très profonde, on étudiera peut-être cela demain en début d'analyse. Alors, on va se rappeler cette kavana. Avant de commencer, Adonai Sfatai Tiftach, nous avons une kavana du mot Adonai. Adonai Sfatai Tiftach, ou Piagite Ilatecha, on se salue en disant Ve'avtal Hakamoucha. Sinon, ça n'a pas de sens de prétendre cette entreprise périlleuse, de demander quoi que ce soit, puisque bien sûr, il y a la Chapsuka. Vous voyez à peu près le problème.
Est-ce que.
Pardon
donner la Kavana avant d'être
Ve'avtal Hakamoucha. N'importe quel. Il y en a assez Tosfot qui cite ça sur cette Gemara, en citant les Rouchalmi, qui dit, celui qui s'occupe de Iske Tzibur, celui qui s'occupe des affaires de la collectivité, Ke Halachab Souka Damien. Ça veut dire, ça ressemble comme s'il avait étudié Halachab Souka. Pourquoi? C'est la même chose. Et c'est la même chose encore dans la réalité. Il s'occupe des affaires de la collectivité. Donc il s'occupe de faire qu'il y ait le moins de marloquettes possible. Le FSJU, par exemple. Et alors, Tosfot cite que c'est équivalent. Il donne une autre expression qu'à la Rapsuka, Tosfot en citant le Talmud de Jérusalem, Dvar Torah. Alors, il faut savoir qu'il y a équivalence absolue. Dvar Torah, c'est à la Rapsuka. Mais la différence avec Dvar Alacha. Quand on dit Dvar Torah, de point ouvrir les guillemets, ça veut dire que c'est Stam Torah. C'est Stam, derrière la plume Marcos. On n'a même plus besoin de citer au nom de qui on a dit ça, parce qu'il n'y a plus de marloquet. Aujourd'hui, dans l'histoire contemporaine, c'est l'inverse. C'est d'Afka quand il y a marloquet qu'on ne cite pas de qui ça vient. Mais vous comprenez ce que je ne veux pas dire. Mais comment on dit en français que c'est Dorot de Tikunam, quand les choses sont normales, c'est-à-dire Stam Torah s'appelle Dvar Torah, alors que Dvar Halacha, vous voyez, il n'y a pas contradiction. Dvar Halacha.